À vue d'esprit, Pierre-Yves Moret.
Le nom d'Eti Ilesum ne vous est peut-être pas étranger. Eti Ilesum est une personne qui a entrepris toute une démarche personnelle d'introspection et qui a découvert ce qu'elle a appelé Dieu. Eti Ilesum qui est morte sous l'oppression nazie dans les camps de concentration Auschwitz en 1943. Et malgré son parcours, il se dégage de ses écrits un formidable amour de la vie. Bienvenue Madame, Monsieur, dans le troisième volet de cette série proposée par Gabriel Le Sarzan et réalisée par Yves Roulin. Nous ouvrons aujourd'hui le troisième volet de cette série consacrée à Eti Ilesum, dont nous célébrons cette année le centenaire de la naissance. Et c'est vous qui nous emmenez auprès de cette personne et de son parcours. Gabriel Le Sarzan, bonjour.
Bonjour.
Depuis le début de la semaine, nous avons entendu un passionné des écrits de Eti Ilesum en la personne de Christian V, un pasteur et aumônier. Christian V qui a rédigé des textes pour un oratorio, notamment à partir des écrits d'Eti Ilesum. Il va proposer aussi, on l'a mentionné, un itinéraire physique en mai prochain sur la vie d'Eti Ilesum. Ce sera dans l'église de Saint-François à Lausanne. Aujourd'hui, vous nous proposez un autre interlocuteur, quelqu'un qui n'est pas issu des mondes ecclésiaux ou théologiques, mais des domaines des arts et de la littérature.
Oui, on pourrait le présenter comme ça, puisqu'il s'agit de Didier Decoing, un auteur scénariste français qu'on a déjà interrogé dans cette émission à vue d'esprit, et qui est l'auteur notamment du livre « Jésus, le Dieu qui riait ». Et lui aussi a été et reste très très touché par Eti Ilesum, vous allez l'entendre.
Alors pourquoi est-ce que vous avez sollicité précisément Didier Decoing, lui, dans cette série d'émissions sur Eti Ilesum?
Parce qu'il a préfacé un livre écrit sur le personnage de Eti Ilesum, en l'occurrence le livre de Marie-Hélène du Parc Locmaria, qui s'intitule « Tant souffrir et tant aimer » selon Eti Ilesum. Et il a écrit sa préface avec l'enthousiasme qui le caractérise, en soulignant combien Eti a réussi à dépasser la révolte et la haine, ou plutôt qu'il les a surmontées, car cette femme va toujours du bas vers le haut, même quand elle dit avoir trouvé la vérité au plus profond d'elle-même. Et là, je le cite. J'ai commencé par demander à Didier Decoing qui était finalement Eti pour lui.
C'est quelqu'un que j'ai découvert tardivement et qui est entré dans ma vie parce que son message, en tout cas le résumé de son message, est quelque chose qui m'a touché, et je dirais c'est une bouée, ça aide à vivre, ça aide à être heureux. C'est une jeune femme, elle est morte à 29 ans, mais qui a fait des découvertes spirituelles, je trouve un petit peu aussi importantes que Christophe Colomb découvrant l'Amérique. Ah, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup, et en plus je la trouve mignonne, mais ça c'est secondaire.
S'il fallait la qualifier en un mot, lequel choisiriez-vous ?
Joie.
La joie.
Joie, oui, oui, parce que dans le fond, elle a connu des épreuves que peu d'êtres humains auraient pu surmonter. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas certain, j'aurais pu passer à travers. Et ces épreuves qu'elle a subies, elle les a subies avec... Alors, comme elle disait, j'ai les pieds dans la boue, mais j'ai la tête au ciel. C'est-à-dire qu'elle arrivait dans on va dire tout de suite, la situation la pire qu'elle a connue, c'est qu'elle a été envoyée en camp de concentration, pas le moindre, puisque c'était à Auschwitz. Avant, elle était dans un camp de triage qui n'était pas très, très gai non plus. Et donc, elle était détenue, elle se savait peu ou prou promise... à disparaître, etc. Et malgré ça, elle arrivait à trouver dans la vie de tous les jours des flashs de bonheur extraordinaires. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup frappé. Un jour, elle est dans le camp de triage, qui est encore elle est hollandaise, on est encore aux Pays-Bas. C'est un camp de triage où tous les mardis à 11h, les nazis viennent prélever 1000 juifs pour les envoyer à Auschwitz. Donc c'est pas un endroit très très gai. Et il se trouve que ce jour-là, il y a un arc-en-ciel qu'elle regarde et ça lui remplit le cœur de joie. Elle rentre dans le baraquement et là elle tombe sur d'autres détenus qui n'ont pas le moral, qui sont tristes, etc. Et elle a un sourire extraordinaire. Alors les autres femmes lui disent mais qu'est-ce que tu, pourquoi tu souris, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de beau aujourd'hui? Et elle réfléchit, elle se dit je peux pas leur dire que j'ai vu un arc-en-ciel, elle va pas comprendre que ça puisse gommer tout ce qui est autour, tout le reste. Donc elle invente une histoire quelconque, etc. Mais en même temps, elle avait cette espèce de vibration joyeuse. Eti Ilesum est une femme qui a trouver le moyen d'être heureuse dans la déréliction, mais pas du tout en jouissant du fait qu'elle était malheureuse ou qu'elle souffrait, qu'on lui infligeait des choses, mais simplement elle allait droit à l'essentiel. Je trouve que c'est quelqu'un de très important. Hetty était d'origine juive, mais non pratiquante. Mmh. Mais elle était évidemment imprégnée de cette fascination juive pour un Dieu qui sauve, qui est là, qui est le peuple élu, etc. Et puis elle avait lentement cheminé vers un Dieu, on va dire un peu plus chrétien, mais c'était pas encore un choix définitif. Mais la personne du Christ l'avait intéressée. C'est ce mélange déjà des deux choses qui est extraordinaire, parce que elle avait gardé du judaïsme le goût des fêtes, le goût de la joie. Moi, je trouve que le judaïsme est une religion extrêmement joyeuse par rapport au christianisme, qui est ma religion à moi. Mais il n'y avait pas de dolorisme chez Hetty. Il y avait simplement une recherche de ce qui peut apporter la joie. Et en même temps, elle était, à prendre un autre exemple anecdotique, parce que c'est une fille qui était très sensuelle. Alors, elle aimait bien manger, elle aimait bien boire, elle aimait la fête avec les copains, etc. Et alors, par-dessus tout, elle adorait l'amour. Mais je parle de l'amour physique, de la sexualité. C'était une chose dont elle ne pouvait pas se passer. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas passer sa vie, quand même, à faire l'amour, qu'il y avait des choses peut-être plus sérieuses, plus importantes à faire. Et alors, elle s'infligeait non pas une punition, mais une remise à niveau. C'est-à-dire, tous les matins, elle prenait un grand seau d'eau froide, elle se balançait sur la tête, puis elle s'allongeait comme ça par terre, laissant l'eau froide sécher sur elle. Elle disait, voilà, ça m'a calmé. Mais ça n'empêchait pas, 2-3 heures après, si elle voyait un de ses amis qui lui plaisait bien, d'avoir envie d'un bisou ou d'une caresse. C'est quelqu'un de très vivant, en plus. Moi, quand je l'imagine toujours sous la forme d'un petit fan, un petit bambi, comme ça, qui gambade. Elle n'était pas grande, hein. C'était un petit bout de femme, avec des boucles brunes. Alors on dit d'elle, et elle-même disait qu'elle n'était pas forcément la plus jolie fille du monde, mais elle a une petite frimousse qui est toute mignonne. Cela dit, quand je dis qu'elle disait qu'elle n'était pas la plus jolie fille du monde, j'exagère un peu, parce que elle disait souvent, est-ce que je suis pas la plus mignonne de toutes? Ce côté quelque part un peu qui est un peu futile, enfin, mais qui est joliment futile, et puis en même temps c'était spirituellement une grande dame.
Didier Decoing, vous avez écrit la préface du livre de Marie-Hélène du Parc Locmaria sur Hetty Hillsum. Et puis vous y commentez les mots de Hetty qui dit « je vais bien » au milieu de l'horreur des camps. Et vous parlez d'un stupéfiant credo d'une femme qui a dépassé la révolte et la haine. Est-ce que cette femme incarne pour vous la réconciliation des extrêmes ?
Oui, contrairement à ce qu'elle pensait, puisqu'elle dit à un certain moment qu'elle a été incapable de relier le ciel et la terre. Alors, en fait, c'est au contraire ce qu'elle a parfaitement réussi à faire. Oui, elle réconcilie les extrêmes, et surtout, elle voit dans tout homme, même si c'est un persécuteur, elle voit d'abord l'être humain. Et c'est une leçon dont on devrait vraiment tenir compte aujourd'hui, parce que la haine qui existe dans nos sociétés contre ceci, contre cela, etc., elle connaissait pas ça, parce que c'est d'abord des hommes ou des femmes, hein. C'est d'abord des êtres humains qu'elle avait en face d'elle. Elle-même était un être humain, et donc voilà, donc elle pouvait trouver qu'ils étaient mauvais, qu'ils étaient méchants, qu'ils lui faisaient du mal, mais pour autant elle les condamnait pas d'une manière définitive, comme on a nous tendance à le faire. Elle avait une formule qui est belle. Elle disait il faut s'aguerrir, mais pas s'endurcir. Alors c'est intéressant, parce que c'est vrai que s'endurcir, c'est devenir assez dur pour pouvoir infliger le mal, la souffrance à autrui. S'aguerrir, c'est combattre le mal qui est en soi, la souffrance qui est en soi. Et ce choix, qui paraît coquetterie de vocabulaire, va beaucoup plus loin que ça. C'est une philosophie de vie qui est vraiment extraordinaire. Elle savait, quand elle était dans le camp, mais même avant, à chaque fois qu'elle a une grosse contrariété, un gros chagrin dans sa vie, elle avait mis au point un système. Là encore, elle fait appel au vocabulaire. Elle disait souffrir, non pas pourquoi, en un seul mot, la question c'est pourquoi le mal, pourquoi je souffre, pourquoi cette injustice contre moi, mais souffrir pour plus loin quoi, ou souffrir pour plus loin qui, ce qui donnait à sa souffrance une raison d'être.
Un sens.
Alors, oui, un sens, un signifiant. C'est pas facile à faire, c'est évident, mais elle s'est entraînée beaucoup. C'était une jeune femme qui avait une vie intérieure très très riche et à laquelle elle prêtait beaucoup d'attention. Et je trouve que c'est extrêmement, enfin moi ça me sert beaucoup. Je me pense maintenant, je réagis comme elle quand quelque chose me fait mal. Je dis pas pourquoi, je dis pour quoi ou pour qui. Quel est le but de cette souffrance? Ça va bien y avoir une signification quelque part. On n'a pas toujours la réponse, mais au moins la question est déjà un peu rassérénante.
Etty écrit, vous l'avez dit, n'avoir jamais réussi à établir une liaison naturelle entre le ciel et la terre, et vous répondez dans la préface à cela qu'elle se trompe, mais en quoi est-ce qu'elle rejoint précisément le ciel, selon vous?
Eh bien, parce qu'elle met de la transcendance dans la boue, dans la crotte, dans le stupre, dans le sang, dans tout ce qui est répugnant à nos yeux. Elle met de la transcendance, elle met de la lumière. Et c'est cette façon de verticaliser le monde qui est rare et qui me fascine chez elle. J'ai l'impression que nous, et moi le premier, on a tendance au contraire à horizontaliser les choses, à aller voir, c'est bien ce que dit l'expression, voir à mon niveau, elle, pas du tout. Elle faisait monter comme une. Tout devenait tour, tout devenait arbre, tout devenait. Tout s'élevait. Ce sens de la verticale, qui est un sens divin, je ne dis pas qu'elle était divine, mais elle avait compris que la recherche de Dieu ou d'une entité supérieure, enfin, je ne sais pas exactement quelle était la vision qu'elle avait de Dieu. C'était une vision très très personnelle, très nouvelle, très moderne, c'est certainement. Mais elle savait bien que cette vision, c'était une vision verticale.
Est-ce que ça s'apprend?
Si on a un bon professeur comme elle, oui. Mais je crois qu'il y a un moyen, en tout cas, de se donner l'appétit d'apprendre ça. C'est de lire les écrits enfin, le journal. Hein, elle a écrit un journal. J'ajoute d'ailleurs en passant, parce que je suis un auteur, que je suis sensible au style. Elle écrivait vachement bien. Hein. C'est très beau. Elle écrit avec beaucoup de simplicité. Elle a un style, une écriture qui lui ressemble. C'est limpide. C'est lumineux. C'est pas, il n'y a pas de grands mots compliqués, mais elle dit des choses infiniment profondes.
Et en quoi peut-être est-ce qu'elle diffère du tout au tout d'une Anne Frank ou d'une Ellen Baer, des femmes juives qui elles aussi ont écrit leur journal avant déportation?
C'est une question très intéressante que vous posez. Malheureusement, la réponse que je vais donner, il ne faudrait pas la prendre de travers, parce que je vais vous répondre que elle ne se regarde pas tellement. Anne Frank, il est adorable, le journal d'Anne Frank. Et Anne Frank est une merveilleuse petite fille, une bouleversante petite fille. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus moi, Anne Frank. Alors que Etty écrit son journal avec l'idée, pas vraiment exprimée, mais on sait que c'était ça, d'aider les autres, de servir les autres. Voilà. Moi, je suis passé à travers des orages. Voilà comment j'ai évité de la foudre. C'est très altruiste, l'écriture d'Etty. Elle se regarde pas. Tandis que c'est normal de se regarder, hein. On peut pas en vouloir à Anne Frank. Loin de là, en plus, ce qu'elle regardait Anne Frank en se regardant elle-même, c'était charmant et délicieux. Mais Etty est terriblement tournée vers l'autre. Peut-être parce que c'était une grande amoureuse. Elle aimait furieusement l'amour, et à force d'aimer l'amour, on finit par aimer les autres. Et elle était vraiment quelqu'un qui regardait à l'extérieur. L'avoir pour sœur, ça doit être formidable. Je connais, si je fais une référence à d'autres femmes, mais dans d'autres circonstances, je dirais que c'est, on peut la rapprocher de deux carmélites que j'aime infiniment. L'une qui est très connue, qui est Thérèse de Lisieux, et l'autre qui est moins connue, mais que pour laquelle j'ai une véritable passion, et qui est Élisabeth de la Trinité, qui était une carmélite de Dijon. Et ces deux jeunes religieuses, mortes à 26 ans toutes les deux, étaient 29, on est dans la même mouvance, elles étaient systématiquement tournées vers l'autre. Alors c'est peut-être plus facile quand on est une religieuse dans un couvent tranquille, encore qu'elles ont subi la maladie et des agonies qui étaient difficiles. Mais Etty était ça, elle regardait l'autre, elle voulait aider l'autre.
Le titre du livre de Marie-Hélène du Parc Locmaria, c'est « Tant souffrir et tant aimer », selon Etty Hillesum.
Oui, c'est parce que c'est une phrase qu'elle a prononcée. Et c'est là où elle est charmante quand elle dit, c'est un vrai bébé, quand elle dit, je ne suis pas arrivée à relier le ciel et la terre. Ben si, souffrir et mélanger l'amour, et là, qui est l'amour de la vie, l'amour de la vie dans un maximum de souffrance, c'est bien relier le ciel et la terre. Et cette image qui close plus ou moins son journal où elle se dit, je l'ai pas, je la cite de mémoire, mais les pieds dans la boue, la vie continue d'être belle. C'est exactement ça. C'est aimer et souffrir. C'est christique, c'est tout à fait christique, et elle a de la souffrance une vision saine. C'est encore une fois, il faut débarrasser la souffrance selon Eti Hilsum de toute connotation masochiste, jouissive, etc. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas souffrir. Elle n'aime pas qu'on fasse souffrir les gens. Elle déteste le mal, mais il est là. Donc elle fait avec, et elle dit c'est pas le mal qui va empêcher la vie d'être le miracle qu'elle est. Sa démarche, elle remonte à son tout jeune âge. Déjà, quand elle était une petite fille de 8-10 ans, je ne dis pas qu'elle se posait des questions métaphysiques, mais de s'intéresser à ce genre de choses. Les camps n'ont été que l'écrin dans lequel le bijou spirituel qu'elle avait forgé pouvait briller. Ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est de penser que ces bourreaux n'ont pas vu ça. Et on les plaint d'abord d'avoir détruit cette vie humaine qui était une bien belle vie, puis on les plaint surtout de ne pas avoir compris ce qu'ils avaient sous les yeux et ce qu'ils avaient là. Quel pitoyable gâchis. Je prends exprès des mots pas compliqués, mais quel gâchis. Vous savez, c'est une fille des béatitudes. Moi, c'est mon passage préféré de l'Évangile. Je trouve que tout est dit là et que c'est non seulement réconfortant, mais c'est enthousiasmant. On a envie de courir en poussant des cris de joie quand on lit ça. Eti, c'est ça. C'est une fille des béatitudes, où je souffre, mais je suis bien heureuse. Pas parce que je souffre, mais parce qu'il y a autre chose que la souffrance qui existe, et qui est la splendeur, la fulgurance de la vie, et de l'être qui a donné cette vie, et qui gère cette vie, et qui est Dieu. Très extraordinaire, ça, c'est très extraordinaire d'y arriver si jeune. C'est des leçons de vie, c'est de la vie qui vous est injectée en intraveineuse, c'est une fille emballante. Une fille emballante parce que voilà, dans la pire des situations, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a de pire que l'extermination des Juifs dans la Shoah? Je veux dire, ils étaient innocents. Et la raison pour laquelle on les exterminait est irrecevable. Humainement, elle est totalement irrecevable. Et elle était embringuée, emportée dans ce torrent-là, qui est un torrent infâme, hideux, effroyable, tout ce que vous voulez. Et elle souriait. Et elle souriait à la vie. Bah, écoutez, des gens qui ont donné des leçons comme ça, il n'y en a pas tellement. Il y a certes des hommes et des femmes qui sont allés au martyr, au poteau d'exécution, en chantant un chant patriotique. Mais pour autant, on n'a pas l'impression qu'ils jubilaient. Or, elle continue de jubiler. Elle me fait vraiment penser au je ne sais pas si ça lui ferait plaisir, mais elle me fait vraiment penser au premier martyr chrétien qui chantait et qui était apparemment heureux d'entrer dans cette tragédie, parce qu'il savait qu'au bout, et même pendant la tragédie, il y avait la lumière de Dieu qui allait les inonder.
Et quelle serait, selon vous, l'actualité de son message, peut-être plus particulièrement?
Il est double. L'actualité de son message, elle est double. La première actualité, c'est il n'y a pas forcément de religion plus vraie qu'une autre. Parce que la démarche d'Eti de passer de l'agnostisme, enfin, de la non-foi, parce que vraiment il n'y a pas de foi, à une approche de qu'est-ce que c'est que le judaïsme, etc. Puis qu'est-ce que c'est que le christianisme, c'est très beau. Et elle fait pas, je veux dire, elle porte pas de jugement, elle dit pas, ça c'est pas bien, ça c'est bien, etc. Il me semble qu'aujourd'hui, dans notre époque de formidable intolérance interreligieuse, c'est un premier message qui est très intéressant. Le deuxième message qui devrait résonner dans notre temps, qui est une époque, nous sommes dans une époque relativement douloureuse, même si certains sont heureux, il y a une multitude de gens qui souffrent et qui souffrent fortement, c'est de dire que même dans la souffrance, il y a plus que l'espoir, plus que l'espérance, il y a déjà la joie. Parce que Eti, c'est pas une fille qui remet à demain. Eti est une fille qui ne s'est jamais préoccupée des fins dernières. Est-ce qu'il y a un au-delà? Elle n'en savait rien. C'était pas son problème. La joie qu'elle trouve, la joie que lui inspire Dieu, que lui inspire l'idée de la divinité, etc., elle la trouve dans le hic et nunc, dans l'ici et dans le maintenant. Elle le trouve dans l'immédiateté de sa vie, pas « ah ben demain j'irai au paradis ». Elle parle jamais du paradis. Ou alors le paradis, il est dans sa flaque de boue.
Elle continue d'accrocher des mots d'amour et de joie aux épines des barbelés.
Oui, c'est exactement ça, et ces mots d'amour et de joie dansent. Moi, c'est quelqu'un qui est... je me réjouis en me disant que, parce que contrairement à elle, je m'intéresse beaucoup à l'au-delà. Et je me dis, tiens, peut-être que quand je basculerai de l'autre côté du miroir, il y aura une petite brunette avec des boucles, une cigarette à la main et des yeux pétillants de malice qui me dira « Salut, je suis Eti, je vais t'apprendre des choses » et je la suivrai.
C'est étonnant, comme c'est quelqu'un qui vous a inspiré finalement.
Ah oui, je l'aime, ouais. Oui.
Didier Decoing, quand et comment est-ce que vous l'avez découverte, Eti Hilsum?
Écoutez, je l'ai découverte comme j'ai découvert Élisabeth de la Trinité, c'est parti d'un visage. C'est-à-dire, je suis tombé un jour, sans du tout savoir de qui il s'agissait, sur une photo d'Eti, qui est d'ailleurs celle qui est reproduite sur le livre de Marie-Hélène du Parc Locmaria, et où elle a le menton et la joue dans sa main, ce qui est une attitude qu'elle prend tout le temps d'ailleurs, de repos, comme si elle avait le... Je sais pas, c'est mignon parce que c'est un petit côté enfantin, mais j'ai regardé ce visage, je suis très sensible au visage. Et je me suis dit, ah, oh, mais c'est comme cette femme est belle, qui diable peut-elle bien être? Enfin, qui diable, c'est peut-être pas le mot choisi. Et donc, j'ai posé la question, vous savez qui est cette fille? On m'a dit, oui, c'est une fille qui s'appelle Esther Hilsum, tout le monde l'appelait Eti. Et je me dis, qui elle est? On m'a dit, elle est morte à Auschwitz, mais elle a écrit des choses. Et j'ai immédiatement eu l'envie, la curiosité de lire ce qu'elle avait écrit. Et quand j'ai lu son journal, j'ai dit, mais non seulement elle attire le regard avec son côté de petite femme vivante, mais en même temps, elle a quelque chose à dire. Et en tout cas, ce qu'elle dit, moi, je le reçois 5 sur 5.
Est-ce qu'elle vous a nourri quelque part?
Elle me nourrit. Elle me nourrit, je veux dire, c'est mes amis. J'avais un prêtre que j'aimais vraiment beaucoup, et qui quand il parlait de certains saints, qui étaient ses amis. Voilà, il avait des copains au ciel. Et moi, j'ai aussi des copines, plus que des copains, et Eti Hilsum, c'est une copine, c'est quelqu'un avec qui je me sens... Comment vous dire, pas en intimité, mais je me sens très très proche. Oui, de sa spiritualité, de son goût de la transcendance, ça me fascine. J'ai toujours préféré la poutre verticale de la croix aux poutres horizontales. Enfin, pour moi, Dieu est Dieu. Comme disait Maurice Clavel, Dieu est Dieu, nom de Dieu, ce qui veut dire qu'il est quand même au-dessus de nous, il faut lever la tête. Et Eti, elle avait une manie, elle tombait très souvent à genoux. Elle avait eu du mal au départ, parce que c'était trop, que c'est une attitude, bon, pas normale pour l'être humain. Puis après, c'était devenu presque automatique chez elle. Et elle disait, mais est-ce que ça me permet de lever la tête vers Dieu? C'est une attitude formidable, ça. Levons les yeux. Levons les yeux. M'est arrivé avec elle un peu ce qui lui est arrivé avec Julius Speer, ce psychologue dont elle dit, je l'ai rencontré le 3 janvier, je suis né ce jour-là. Moi, je ne suis pas né le jour où j'ai croisé les écrits d'Eti, mais c'est vrai qu'il s'est passé des choses. Peut-être parce que elle confirmait une chose à laquelle je croyais, c'est-à-dire à la surpuissance de la joie. J'ai toujours pensé que si Dieu était celui qu'il prétend être, et si la résurrection était vraie, et si la promesse de la vie éternelle était vraie, ça pouvait pas être quelqu'un de triste, et sa religion ne pouvait en aucun cas être un machin sinistre où on pleurait, où on faisait la gueule, etc. Et Eti est venu conforter cette idée-là. Et je me suis senti en territoire ami, si vous voulez, en complicité avec elle. Plus qu'une découverte, c'est quelqu'un qui me disait avec des mots que moi je savais pas employer, qui me disait ce que je pressentais, ou peut-être ce que j'avais envie d'entendre. Hein. C'est possible, mais ça depuis le temps, je vérifie tous les jours que c'est jouable. Thank you.
C'était Didier Decoing à votre micro, Gabriel de Sarzan. Alors, on entend les écrits de Ethyl et Soumon ont confirmé à Didier Decoing une chose à laquelle il dit croire, la surpuissance de la joie. C'est une expression un peu mystérieuse, mais assez forte en même temps.
Oui, d'autant plus quand elle évoque une personne qui est morte en déportation. On l'a entendu de la bouche même de Didier Decoing. Si on revient au journal d'Ethyl El Soum, elle y révèle le 29 juin 1942 ce qu'elle vient d'apprendre par la radio britannique, à savoir que 700 000 juifs ont déjà été exterminés par les nazis. Elle écrit alors ceci: « On veut notre extermination complète. Cette certitude nouvelle, je l'accepte. » Mais une certitude acquise ne doit pas être rongée ou affaiblie par une autre. Je travaille et je vis avec la même conviction et je trouve la vie pleine de sens malgré tout, même si j'ose à peine le dire en société. » Donc c'est comme si elle élargissait sa vie ou qu'elle l'approfondissait en acceptant sa part sombre et en s'attachant à la beauté du monde qui reste.
Mmh. Oui, c'est assez touchant, effectivement. Bon, on peut préciser qu'évidemment, on n'a pas des écrits des derniers jours d'Ethyl et Soum, puisque comme elle est morte dans les camps de concentration à Auschwitz, elle n'a pas pu témoigner de cette force intérieure jusqu'au bout. Mais on entendait que Didier Decoing soulignait cette force, notamment quand il dit que Ethyl et Soum a parfaitement réussi à relier le ciel et la terre.
Oui, en mettant la transcendance dans la boue.
Mmh. Ce qui est aussi touchant, Gabriel Le Sarzan, c'est d'entendre cette espèce d'intimité que les gens qui sont touchés par les écrits d'Ethyl et Soum développent. Alors c'est très clair chez Didier Decoing, mais on parle d'elle en disant Ethy, comme si c'était quelqu'un de proche.
Oui, c'était son surnom, hein, puisqu'elle s'appelait Esther, Esther Hilsoum, et tout le monde l'appelait Ethy. Et d'ailleurs, elle signe ses lettres du nom de Ethy et jamais Esther.
Mmh. Merci Gabriel Le Sarzan, et je rappelle que sur notre page internet, vous avez placé des références sur cette série d'émissions, notamment sur le livre préfacé par Didier Decoing qui s'intitule « Tant souffrir et tant aimer selon Ethyl et Soum », écrit par Marie-Hélène du Parc Locmaria, publié aux éditions Salvator, ainsi que sur les écrits d'Ethyl et Soum, « Une vie bouleversée », publié aux éditions du Seuil, et tout cela donc sur notre page internet rts.ch/esprit. C'est la fin de cette édition à vue d'esprit. Je rappelle que vous trouvez toutes les informations complémentaires sur notre page internet rts.ch/esprit. Vous pouvez également réécouter ces émissions et les télécharger sur votre ordinateur rts.ch/esprit. Restez en notre compagnie. Dans quelques minutes, c'est Daniel Robella qui vous attend. D'un air entendu, très bonne suite d'après-midi sur Espace 2. Les informations, il est 17h.